Chapitre 67. Charcot fourra l'essentiel dans un sac de sport. Nécessaire de toilette, slip, chaussettes, maillot de corps, pull en laine. Il n'oublia pas non plus la photo de classe, ainsi que les clichés des enfants nus. Puis il zippa la fermeture et plaça le sac près de sa porte d'entrée. Le lendemain, il partirait aux alentours de 7 heures, ce qui lui permettrait d'arriver à Sallanches en début d'après-midi.
« Je ne comprends pas qu'on t'envoie là-bas un jour de réveillon. »
s'insurgea Suzanne lorsqu'il lui téléphona.
« Ils n'ont donc aucun scrupule ?»«
Ce ne sont que des archives à fouiller, ça va aller. Au moins, je vivrai mon astreinte paisiblement dans les montagnes sans risque d'être dérangé par un appel. Ce n'est pas si mal, finalement. Et j'emporte une boîte de foie gras avec une demi-bouteille de sauterne. Comme ça, on trinquera tous les deux, même à distance. Qu'est-ce que t'en penses ?»«
Il n'y a que toi pour avoir des idées pareilles. »
Ils discutèrent une petite heure, puis Franck raccrocha. Il soupira alors longuement, plein de remords. Il ne lui avait pas parlé de ce qu'il s'apprêtait à faire. Allait-il réussir à mettre un nom sur le tueur des disparus du sud parisien? Le chef du SMUR de la Salpêtrière lui avait laissé un message avec les adresses des suspects. Le jeune inspecteur avait noté, sur un morceau de papier, les deux qui l'intéressaient. Celle de Richard Jumont, l'infirmier, et celle de Dominique Tournel, le médecin. Ils habitaient Paris intramuros. « C'est ce soir, » songea-t-il. « C'est ce soir que tout se passe. » Il jeta un œil à son holster alourdi de son MR-73, suspendu à son porte-manteau, hésita et décida de ne pas l'embarquer. Après tout, il ne devait faire que de la reconnaissance et en aucun cas tenter quoi que ce soit. Vêtu d'un jean noir, d'un pull camionneur bleu foncé et d'un blouson d'hiver gris, il rejoignit le métro et prit la direction du premier arrondissement, là où logeait le toubib du temps où ce dernier travaillait à la Pitié-Salpêtrière. Il était 19 heures. Charcot ignorait encore ce qu'il ferait une fois sur place, et il comptait sur la présence d'un concierge qui pourrait lui fournir des informations. Dans le pire des cas, rien que le fait de voir à quoi ressemblait l'homme serait utile, non pas pour l'incriminer, mais au moins pour le discriminer. En effet, d'après les témoignages récoltés au fil des années, l'assassin était quarantenaire, il mesurait dans les 1m80, était large d'épaule et avait les cheveux courts de couleur sombre à l'époque du premier meurtre. Franck descendit au métro Bourse et, aidé de son plan de poche, trouva la rue Hérold, non loin du très animé quartier des Halles. Selon les indications de Rotten, Dominique Tournel vivait au numéro 21. Franck repéra le bâtiment de 4 étages, beau standing, massive façade en pierre blanche jouxtant des cabinets d'avocats et de juristes. Était-ce un signe ? La justice d'un côté, le crime de l'autre ? Il passa une première fois devant l'entrée, protégé par un digicode. Il se glissa alors dans l'ombre sous le porche de l'immeuble voisin et attendit un quart d'heure qu'une vieille dame sorte avec son chien. Il se précipita dans son dos et eut juste le temps de bloquer le bâton du pied avant qu'il ne se referme. Le stress monta d'un cran lorsqu'il lut sur une des boîtes aux lettres, celle de l'appartement numéro 37, « Madame et Monsieur Tournel ». L'urgentiste était marié, ce qui ne l'empêchait pas d'être coupable. Certains meurtriers avaient une femme, des enfants, et menaient une vie sociale des plus normales. Autre hypothèse, Tournel s'était mis en couple après ses forfaits, et ce changement de situation avait mis fin à son épopée sanglante. Franck grimpa au 3e, le col relevé, l'oreille attentive. Il resta au niveau de la cage d'escalier, le 37 en vue, ne bougea plus le temps que le minuteur s'éteigne, et remarqua la lumière qui filtrait depuis l'intérieur du logement. Il y avait quelqu'un. Difficile d'imaginer qu'un tueur barbare puisse se terrer derrière cette cloison. L'envie était forte de mettre un visage sur ce nom, Tournel. Mais le jeune inspecteur refusait de prendre le moindre risque. Hors de question de frapper et de baratiner un mensonge. Même des années après ses actes, le potentiel criminel devait encore être sur ses gardes. Charcot avait un plan de secours. Il redescendit dans la rue, patienta 20 nouvelles minutes, et quand il repéra la dame de retour avec son chien, il courut et essaya d'ouvrir la porte devant elle. Il feignit la panique. « Excusez-moi, madame, j'habite en face depuis peu. Mon bébé est tombé de sa chaise haute et il s'est tapé la tête. Il est conscient, mais il n'arrête pas de pleurer. Une voisine m'a dit qu'il y avait un médecin ici. Elle ne se rappelle plus son nom. 40aine d'années, large d'épaule, environ 1m80. » Les sourcils de son interlocutrice se froncèrent. « Il y a bien le docteur Tournel, oui, mais il a aux alentours de 55 ans et il est plutôt petit et maigrichon. « Enfin, peu importe, il pourra vous aider. Venez !» Elle composa le code et se retourna. Mais Charcot s'éloignait déjà. « Je vais finalement m'arranger autrement, » lança-t-il. « Merci quand même !» L'assassin n'était pas Tournelle. Alors, à grands pas, Franck regagna la station de métro, prit la ligne 3, puis la 5 en direction du sud. Il était proche, tout proche du but de sa quête désormais. Accroché à une poignée, serré contre les autres voyageurs, il observait. Les gens qui lisaient le journal, assis sur les banquettes, ceux qui somnolaient. Il savait que n'importe lequel d'entre eux pouvait basculer, que personne n'était à l'abri, pas même lui. Il se dit que Richard Jumon, l'infirmier, avait peut-être emprunté cette rame aujourd'hui. Un anonyme parmi les autres rentrant chez lui après une journée de travail bien remplie. Un monstre avec du sang sur les mains. Terminus Place d'Italie. Il trouva le boulevard Auguste Blanqui qu'il remonta sur 300 mètres. Le vent d'hiver balayait les artères. Le métro aérien filait dans un fracas de métal, bondissant d'arrêt en arrêt comme un bourdon en quête de fleurs. Il arriva devant l'immeuble du 96, une tour de 15 étages. Ce coup-ci, à proximité des portes vitrées qu'il atteignit après avoir gravi quelques marches, pas de digicode. En revanche, à l'intérieur, dans le hall, il tomba sur une loge au-dessus de laquelle était vissée une plaque « concierge ». Une fenêtre ouverte, en partie obstruée par une grille à demi baissée, faisait office de guichet et donnait sur un bureau encombré de balais, de seaux, de petits matériels de dépannage. Charcot regarda sa montre, 20h20, et alla jeter un œil aux centaines de boîtes aux lettres sur le mur d'en face. « Je peux vous être utile ?» Le concierge était apparu à son poste en train de manger une pomme. Un homme au visage rond et jovial, moustache noire et cheveux gominés en arrière. Franck n'était pas à l'aise, il devait éviter de trop traîner là au cas où, malchance, Jumon viendrait à passer. Il s'approcha de son interlocuteur. « Oui, sans doute. On prépare une surprise à un ami ainsi qu'à son frère. Je voulais m'assurer que le frère habite bien ici parce qu'on va lui envoyer une invitation mystère dans quelques jours. Je connais à peu près tout le monde. Dites-moi comment il s'appelle. Richard Jumon. Désolé, mais ça fait un bail qu'il a déménagé. » Franck ne cacha pas sa déception. « Mince, vous avez une idée de sa nouvelle adresse ?» Le type observa sa pomme, la tourna pour en croquer une grosse bouchée. « Non, mais vous n'êtes pas au courant de ça. Ça ne colle pas votre histoire de surprise, monsieur. Ça fait plus de 2 ans que Richard Jumon est parti. Qu'est-ce que vous cherchez exactement ?» Charcot avança jusqu'à l'encadrement. Les ombres creusèrent davantage ses cernes. Il décida de montrer sa carte de police. « Parlez-moi de lui, s'il vous plaît. » Une lumière brilla dans l'œil du concierge. « Pour tout vous dire, je le voyais peu. Il travaillait souvent la nuit. Toujours très poli, pas le genre à faire des problèmes. Célibataire, marié, est-ce que vous pouvez le décrire physiquement ?»« Je l'ai toujours vu seul. Et pour la description, je vous laisse patienter une seconde. »
L'homme disparut un instant et revint avec une photographie.
« J'ai une 15aine d'années de métier dans cet immeuble. » Et j'aime bien me fabriquer quelques souvenirs avec les locataires ou les propriétaires qui s'installent ici, quand ils acceptent, parce que ce n'est pas le cas de tout le monde. Bref, j'ai plus de 2000 Polaroids comme celui-là. Et je vous présente Monsieur Jumon. »
Franck saisit le cliché d'excellente qualité, tiré devant un parterre de fleurs de l'immeuble. L'infirmier avait une carrure imposante et dépassait le concierge d'une tête. La quarantaine, cheveux courts et châtain foncé. Rien, et surtout pas son sourire, n'indiquait qu'il était un sadique sanguinaire. Il avait les traits plutôt réguliers, une belle tenue, un physique agréable. Comme Ted Bundy, assassin de plus de 30 femmes. Au dos du papier glacé, une date avait été inscrite, 8 septembre 1987. France, la deuxième victime, avait été tuée moins d'un mois avant. Tout correspondait, ou en tout cas, rien ne réfutait le fait que Richard Jumon pût être le monstre qu'il traquait.
« Je peux garder votre photo ?»
Le concierge hésita, puis acquiesça.
« Allez-y, oui. Je n'y tiens pas particulièrement, mais si vous pensez à me la rapporter à l'occasion, ce serait sympa. »
Franck glissa sa trouvaille dans son portefeuille.
« Je le ferai. Est-ce que vous vous rappelez plus précisément quand il a quitté l'immeuble ? Vous avez parlé de plus de 2 ans. »« Oui, oui. Je dirais l'été 89. Maintenant que j'y songe, ça a été une drôle d'histoire, d'ailleurs. C'est-à-dire ?» Monsieur Jumon est parti du jour au lendemain. Je l'ai vu descendre un soir sans valise, sans rien, et ça a été la dernière fois. »
Charcot se raidit. Le troisième meurtre avait eu lieu en avril 89. Depuis, plus aucune manifestation de ce taré. Y avait-il un lien avec ce départ précipité? Vous savez ce qui s'est passé?
Oui et non. Quelqu'un de sa famille a débarqué quelques semaines plus tard pour récupérer ses affaires parce que Monsieur Jumont avait tout laissé en plan. Quand j'ai demandé de ses nouvelles, parce que j'étais inquiet, l'homme m'a répondu que Monsieur Jumont avait été agressé et jeté dans le canal de l'Ourcq, et qu'il avait survécu, mais avec de graves séquelles, et ne reviendrait plus loger ici.
Franck ne sut dire combien de temps dura le trou noir qu'il ensevelit. Ses tempes bourdonnèrent. Il se rappela sa conversation avec Florence, le jour où ils étaient allés prévenir les parents de Delphine Escrémieux. Les révélations qu'elle lui avait faites au sujet du demi-frère de Serge. Quand il redressa la tête, ses deux mains étaient cramponnées au guichet. Le concierge criait presque à son oreille.
« Oh, ça va ?»«
Oui, oui. »
Non, rien n'allait. Franck reprit son souffle. Il devait absolument se calmer.
« Est-ce que vous vous souvenez si celui qui a vidé l'appartement avait une marque de naissance sur le nez ? Une tache de vin rouge foncé ?»
L'autre acquiesça avec certitude.
« Oui, c'est tout à fait exact. En plein milieu du visage. »
Le jeune inspecteur encore sonné le remercia et regagna le boulevard Blanqui. Il ne sentait plus le vent glacé qui fouettait les bâtiments, ni n'entendait le boucan des rames aériennes. La ville lui passait au travers, tandis que tout s'éclairait soudain. Son cerveau joua la scène qui avait dû se produire dans le bureau des années plus tôt, lorsque Serge, alors chef de groupe, avait découvert la note de Titi dans la bulle. Et apprit qu'un appartement avait en partie brûlé à l'étage du logement d'Isabelle Rondieu, la troisième victime, fin mars 1988, soit 13 mois avant son meurtre. Pompiers et ambulances ont été envoyés sur place. Amandier avait-il tilté en lisant cette phrase qui mentionnait l'intervention des services d'urgence? Avait-il eu un simple doute, estimant que son demi-frère pouvait être l'assassin qu'il traquait depuis tout ce temps? Franck le visualisait en train de se débarrasser du papier de Titi, puis... C'était à peine croyable, mais Serge avait trouvé le meurtrier, son propre demi-frère. Facile d'imaginer son anéantissement et sa colère. Alors il avait pris une décision. Il n'y aurait pas de justice, mais la loi du talion s'appliquerait. Richard Jumont avait fait du mal. Il allait payer à son tour, œil pour œil, dent pour dent. Serge Amandier avait-il ensuite participé à l'agression et balancé le corps dans le canal de l'Ourcq, ou avait-il engagé des malfrats pour le faire? Charcot parcourait les couloirs du métro d'un pas d'automate. Après ça, son coéquipier avait sombré dans l'alcool, la dépression. Son monde s'était effondré, ses convictions également. Le mal pouvait se cacher sous les traits de n'importe quel visage, y compris celui des êtres qui lui étaient proches. Il avait malgré tout fallu continuer à faire semblant, à poursuivre un fantôme, à mentir à tout son entourage, ses collègues, sa famille, celle des victimes. Et pendant ce temps-là, son demi-frère au cerveau grillé par le manque d'oxygène, aveugle d'un œil, croupissait dans un centre spécialisé, peut-être même plus conscient des atrocités qu'il avait commises. Charcot saisissait mieux pourquoi Serge avait insisté pour qu'il ne parle de sa piste des ciseaux à personne. À tous les coups, il n'avait jamais interrogé le légiste à ce sujet. Il avait cherché à éloigner Franck de la bonne voie, faire en sorte que cette histoire reste enterrée à tout jamais. Franck rentra chez lui et s'écroula sur le canapé, les mains sur le crâne. La voix rauque de son coéquipier résonnait dans sa tête.
« Pas impossible que t'aimes rendre l'appareil un jour !»
lui avait-il glissé quand le jeune inspecteur le serrait contre lui, devant la maison de Madeleine souffrant. Bon Dieu, qu'est-ce qu'il allait faire ?